Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Vous savez que quand il sonne 11h de lundi à vendredi, nous sommes ensemble pour cette émission Club de la Presse. Aujourd'hui, 20 mars, reconnu par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, comme étant la journée internationale de la francophonie. En 2025, l'OIF met les célébrations de la journée internationale de la francophonie sous le thème « Je m'éduque, donc j'agis ». Ce thème fait référence à l'éducation au sens général, un accès à une éducation de qualité pour toutes et tous, et notamment dans un monde où les avancées technologiques redéfinissent nos repères, contribuent au développement durable et à la paix en formant ces générations engagées et responsables. Justement, l'actualité sur le continent est dominée par le retrait des trois pays de l'AES, de l'Organisation internationale de la francophonie. Que vous inspire ce retrait des trois pays? Nous allons aborder le sujet avec mes confrères journalistes en studio avec moi et aussi mon invité, professeur David Doucet, porte-parole du Front Citoyen Togo Debout. Avec lui, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité politique et aussi sociale alors de notre pays. Professeur, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous qui nous suivent, bonjour à tous ceux qui sont sur ce plateau.
Justement, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de vous avoir. Je le disais, nous allons aborder d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays, hein, du continent africain aussi, alors du monde entier, dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 20 mars 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou Vitogbe et Tomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaoué. Là vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous capter sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Confrères en studio, Michel Yaou Tsadza, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères, bonjour à l'invité, et puis surtout bonjour à Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Par la grâce de Dieu, ça peut aller.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est avec plaisir.
L'autre qui a répondu aussi à notre invitation, c'est Elom Kossi Atisoubé. Elom, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous, bonjour au professeur Doucet, et bonjour aux techniciens. Bonjour Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Ça va, par la grâce de Dieu.
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation.
C'est moi.
Voilà, déjà l'équipe de jeudi, on peut compter aussi beaucoup sur Ambroise Mondou. Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous, bonjour professeur, bonjour à ceux qui nous suivent depuis la DSR et la SAFER, particulièrement M. Thir qui est à la SAFER. Je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l'attention de tous ceux qui sont actuellement dans la chaleur, de s'hydrater régulièrement et de ne pas laisser fermer leurs fenêtres. Parce que la chaleur, ça tue. La chaleur, ça tue parce que quand vous êtes déshydraté et que vous n'avez pas l'habitude de consommer de l'eau, vous risquez de tomber en syncope. ça veut dire que il y a un médecin à côté de moi, je parle sous son contrôle. Et donc, je l'ai toujours dit que ceux qui construisent sur le mur à cause des voleurs, peut-être par insuffisance de terrain, il faut éviter tout ça pour les prochaines fois parce que quand vous avez une maison qui est toute construite sur le mur, il n'y a pas d'aération. La maison, c'est l'aération. Quand vous dormez, il faut de l'air. Quand vous construisez, vous n'avez pas d'existoire. Et qu'il fait chaud, vous allez dormir où? Devant du portail ou en haut? Si votre maison a été couverte par les tôles, vous allez faire comment? Et donc, je crois que déjà, ceux qui sont sous la dalle, quand ça accumule la chaleur, le soir, ça dégage ça. Et donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Même les chiens sentent la chaleur. Quand vous les voyez, les poules aussi, ça chante la chaleur. Et les hommes. Donc, il faut chaque fois se déshydrater, éviter de construire sur le mur, avoir au moins deux fenêtres et une porte sur chaque chambre.
D'accord, pour éviter les problèmes. Merci beaucoup, Ambroise.
C'est juste des conseils que moi je donne.
Oui, justement, bien sûr, il faut cette sensibilisation. Nous avons aussi ce rôle alors de sensibiliser les populations. Mais vous avez bien fait quand même de faire cette transition, puisque vous l'avez si bien dit, nous avons un médecin avec nous. Et ça tombe bien. Il y a le journal La Nouvelle Tribune également qui revient sur cette chaleur. Et aussi, non seulement la chaleur, mais les difficultés d'avoir de plus. C'est ces derniers temps, le journal écrit Togo, forte chaleur, difficultés agricoles, détail de la saison des pluies. Professeur, oui, vous êtes médecin, mais est-ce que vous comprenez la situation que nous vivons actuellement?
Je la comprends d'autant plus que je la vis aussi. Lorsqu'il fait chaud, on n'a pas tout le temps la possibilité d'être dans une ambiance climatisée. Donc, il m'arrive régulièrement de souffrir des affres de la chaleur, surtout lorsqu'il y a des lestages. Et que vous n'avez même pas la possibilité d'allumer un simple ventilateur, voilà. Donc, il fait excessivement chaud, c'est une chaleur humide, vous commencez à transpirer très tôt le matin, autour de midi, c'est infernal, jusqu'au soir, et les premières fraîcheurs, vous les ressentez autour de, je sais pas, 22h, 23h, donc très tard dans la nuit. Et le fait de transpirer beaucoup, comme il l'a dit, vous oblige à vous réhydrater. Il faut boire pour remplacer ce que vous perdez. Nous qui sommes encore assez alertes, je pense que ça va. Mais il faut faire attention lorsqu'on a des personnes âgées qui n'ont pas toujours cette faculté de demander à boire, ou des enfants également qui n'ont peut-être pas toujours cette faculté également de solliciter une boisson pour se réhydrater. Donc il faut tenir compte de ces âges extrêmes et apporter des quantités de boissons suffisantes quotidiennes aux âges extrêmes pour éviter des désagréments.
D'accord. Oui, mais alors, c'est vrai que c'est une situation difficile que nous vivons tous ensemble, surtout au sud Togo, parce que tout récemment, c'était le vendredi dernier, il y a la NAMET qui a fait une sortie pour en quelque sorte expliquer ce que nous vivons exactement. Et là, la NAMET dit que déjà dans les jours à venir, la saison va reprendre même d'ailleurs son cours normal. Mais là, pour le moment, nous sommes en train de vivre justement ce que les gens appellent même d'ailleurs de canicule.
Oui, mais la NAMET a fait beaucoup plus sa sortie pour aider les agriculteurs. C'est pas une sortie beaucoup plus par rapport à la chaleur relative à ce que nous vivons dans nos chambres et tout. Mais de toutes les façons, c'est une période de pluie qui est très attendue sur la capitale et à l'intérieur du pays. Vous avez vu la saison de récolte aujourd'hui, c'est très compliqué. Les gens attendent juste une petite pluie pour commencer à faire les semis et tout. Mais il n'y a pas de pluie, mon frère. Il n'y a pas de pluie. Et puis la nature est capricieuse. Normalement, on est dans le mois de mars. Les premières précipitations doivent déjà se faire sentir. Mais jusque-là, on est jusqu'au 20 aujourd'hui. Voilà, vous avez de rares pluies. Est-ce que je vais appeler ça même une pluie? Vous avez, bon, le ciel qui s'assombrit, il y a quelques petites gouttes, et puis bon, basta. Juste après, quelques heures après, la chaleur reprend de plus belle. Et donc, comme Ambroise l'a dit, les gens dorment aujourd'hui, les fenêtres ouvertes, même la clim ne vous répond plus. Vous mettez la clim, mais vous avez l'impression de suffoquer dans la clim, parce que il fait extrêmement chaud. Et comme il a dit, les conseils qu'on peut donner aujourd'hui, c'est de boire beaucoup d'eau pour voilà, se déshydrater. Enfin, pour s'hydrater plutôt. Parce que là, avec la chaleur, on se déshydrate très rapidement. Et ensuite, ceux qui aiment construire, c'est aussi l'occasion de parler des maisons ou des gens qui construisent sans plan, sans architecte et tout. Où on se lève, on dit bon, on ferme ici, on boucle là, on construit comme ça. Il faut éviter ça. Hein. Parce que là, les périodes même nous disent qu'il ne faut pas, surtout en cette période-là, tu dors dans la chambre sans aération, et ce n'est pas vraiment aéré, c'est compliqué. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait plus mal, c'est les agriculteurs. Parce que là, tout le monde sait que si vous allez à l'intérieur du pays, dans les milieux ruraux, vous comprenez que les gens sont vraiment à bout. Ils n'attendent que la pluie pour commencer justement quelque chose. Et c'est compliqué parce que à l'intérieur du pays, les gens ne vivent essentiellement que de l'agriculture. Vous comprenez? Et même dans la capitale aujourd'hui, vous regardez, l'agriculture est la principale substance de quoi vivent les Togolais. Généralement, quand vous prenez la carte du Togo, tout ce qu'on a eu à apprendre à l'école, c'est l'agriculture.
Et l'agriculture de subsistance. Oui, sur ce point, l'homme, c'est vrai que je suivais le directeur de la NAMET ce matin sur une radio qui confirmait quand même que la bonne nouvelle, c'est qu'à l'intérieur du pays, il pleut.
Dans certaines villes. Dans certaines villes, on va pas généraliser. C'est vrai qu'il a plu dans certaines villes. Il y a quand même une de forte pluviométrie dans certaines villes. Mais bon, quand vous allez par exemple, quand vous prenez la zone d'Azanjouan, là, c'est aussi l'intérieur du pays, mais il pleut pas. Par exemple, vous allez vers Vaughan, etc. Il pleut pas, c'est la chaleur. Vaughan, dans la préfecture de Vaud, dans la préfecture de Yoto, il pleut pas. Mais c'est l'intérieur du pays aussi. Donc là, franchement, on est en train de regarder, mais les effets du changement climatique sont là. Il va falloir que, c'est vrai que nous, on n'est pas un gros pollueur. Quand on prend la carte de l'Afrique, le Togo n'est pas un si gros pollueur. Mais nous subissons les effets du changement climatique. Et il va falloir que, dans toutes les questions aujourd'hui, que ce soit politique, économique, financière et tout, on intègre quand même la question du climat. Parce que le facteur climat est aujourd'hui très important dans toutes les réflexions que nous pouvons faire, que ce soit la santé, l'agriculture, l'éducation et tout. Le climat est très important. Et pour qu'on puisse véritablement avancer.
D'accord, Michel, c'est vrai que nous subissons tous ensemble l'effet de cette anomalie ou de ces anomalies climatiques aujourd'hui. Mais nous, les humains, nous en sommes aussi pour quelque chose.
Oui, nous en sommes pour quelque chose. Et en tout cas, les responsables donc des organisations qui lutte pour la préservation de l'environnement, le disent tout le temps que l'action de l'homme est pour quelque chose dans les changements climatiques. Et je pense les 5-10 dernières années, on le disait, bon, certains pensaient que, bon, ça ne les concerne pas. Aujourd'hui, tu as suivi les collègues, les confrères et l'invité, tu les as écoutés, tu as compris que tout le monde ressent les conséquences des changements climatiques. Et aujourd'hui, ça interpelle tout un chacun que nos actions sur l'environnement, nos actions de tous les jours peuvent contribuer à créer ces modifications dangereuses sur l'environnement, et nous sommes les premiers à récolter les fruits. Et on se rend compte que aujourd'hui, ça ne concerne pas seulement une partie du monde. Toute la planète est engagée et on le ressent, les retombées négatives donc de l'action humaine sur l'environnement, on le ressent, on le vit aujourd'hui. C'est difficile, hein. Vous savez, même quand vous êtes sous climatisation aujourd'hui, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge, hein, parce que vous avez parfois, lorsqu'on ouvre la porte, vous avez parfois l'impression d'être envahi par des bouffées de chaleur qui ma foi, désorganise votre organisme. Et donc, et quand vous êtes encore dehors, même sous un arbre, ce n'est pas encore ça. C'est pour dire que les ministères de l'environnement, les organisations qui nous interpellent tout le temps à préserver un environnement sain, je pense que il est temps que nous ouvrons largement les oreilles, parce que lorsque ça ne va pas, nous tous, nous allons partager les dividendes. Et nous sommes déjà là.
D'accord.
Les 5-10 dernières années, la situation que nous vivons, on a ici un certain nombre d'âges, et on ne le vivait pas. Donc ça veut dire que la nature a subi un coup terrible. Et les animaux même, Ambra le disait, les animaux, surtout les chiens, la volaille, tout ça là, ils sentent donc les effets du réchauffement climatique.
D'accord.
Donc l'être humain doit quand même repenser sa façon de vivre, en tout cas dans son environnement.
Dans son environnement. Merci beaucoup. Oui, Ambrasse.
Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, la question du changement climatique doit être une question sérieusement transversale. Transversale dans le sens que tout le monde doit l'intégrer dans son approche de gouvernance. Que ce soit au niveau des entreprises, la responsabilité sociétale des entreprises, on en parle. Et que ce soit au niveau des institutions de la République, que ce soit au niveau des institutions sous-régionales ou internationales, que ce soit au niveau des établissements publics, des collectivités territoriales. Toutes ces entités-là doivent prendre en compte...
Et même du citoyen.
J'en viens. C'est le citoyen qui est même le socle.
N'est-ce pas?
Quand on parlait à qui incombe cette responsabilité, c'est aux hommes. C'est les humains qui ont détruit la nature. La nature que Dieu a créée, même dans la Bible, quand vous allez dans la Bible, dans Proverbe, Genèse, vous allez comprendre que c'est Dieu même qui a créé la nature. Mais l'homme, comme les gens de Donald Trump, ont détruit la nature. C'est pas lui qui l'a détruit.
La fixation
parce qu'il est climato-sceptique. C'est ça le problème. Même si je l'adule sur d'autres plans, là, je suis pas d'accord avec lui. Parce que quand la révolution industrielle a commencé dans les années 1800, c'est-à-dire au 18e, 19e siècle surtout, en Angleterre, et eux, ils ont commencé par fabriquer des avions, des bateaux, tout ça là. Pour le Togolais lambda, pour le petit qui est au CE1, au CM1, c'est ce qu'on peut leur expliquer, que c'est ce qui a créé un certain développement du gaz à effet de serre, qui a détruit la couche d'ozone et qui donc projette plus les rayons ultraviolets du soleil sur la Terre et qui donc crée un désagrément total, un déséquilibre total au niveau de tout ce qui est connexion environnementale et humain. Et donc, l'humain ayant à 90% participé, nous devons revenir à nous-mêmes. L'humain doit revenir à lui-même en faisant quoi? En faisant ce qui est de sa responsabilité, partie de la cellule familiale, au niveau du quartier, au niveau de la commune, au niveau de toutes ces entités-là. Maintenant, je parle de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est maintenant les entreprises, les institutions d'ordre qui engrangent des bénéfices, doivent aider la société civile, les ONG, à lutter contre les changements climatiques, comme notre ONG, par exemple, l'Observatoire ouest-africain de l'environnement, qui se débat avec cette histoire de déchets plastiques et qui avait la dernière fois demandé à ce que tout le monde soit reboisé. Décon, allez à Décon, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Quand à midi 13h, vous voulez déambuler juste Décon, là où il y a nos amis qui vendent les portables, là, jusqu'à la Festival des Glaces, vous allez suffoquer. Il n'y a aucun arbre. La rue des Palimés. Au moins, nos amis de Boumaf, ils ont essayé de planter, comment on dit ça, ça ressemble au dattier sur la terre pleine centrale, jusqu'à certains même qui sont civiques et notoirement maudits, ont détruit, ont enlevé ça. Oui, c'est ça, c'est le mot. Quand tu ne souffres pas d'une malédiction, on ne peut pas planter quelque chose pour que ça profite à tout le monde et que toi, tu viennes enlever ça. Et donc, nous, on plaide pour tout Lomé soit reboisé. Je salue le professeur Kwaku de l'Université de Lomé, le préfet à Tabou, paix à son nom. On avait organisé un truc, ils nous ont appelé, et nous, on a souhaité qu'on reboise toute la rue de Palimé, de Ségué, tout le déco, la Libération nationale qui est parsemée de quelques arbres, et tout Lomé. Vous allez voir, quand on va allumer ce feu-là, reboiser toute la ville de Lomé, vous allez voir. Les arbres vont capter le carbone, la chaleur va diminuer.
D'accord.
Et on sera tranquille.
D'accord,
on sera en paix.
Merci beaucoup, Ambroise.
Deux choses. Je vais ajouter à ce que Ambroise vient de dire. après avoir fait cette campagne de reboisement, il faut entretenir.
Ouais,
et ça, c'est après ça, le rôle revient aux communes de pouvoir faire l'entretien. Et c'est très important parce qu'en matière d'environnement et d'assainissement, on a constaté qu'au niveau des communes, on a beaucoup de défis à relever. On dit, les communes disent non, c'est l'ANASAP. L'ANASAP dit non, c'est les communes. Et il y a un problème. Heureusement qu'en conseil des ministres, la dernière fois, il y a un décret qui a été pris pour réviser les attributions de l'ANASAP. C'est très important parce qu'on plante, mais après, le suivi n'est pas fait, on n'arrose pas et tout est... Voilà, vous comprenez la situation. Bon, maintenant, deuxième chose par rapport à ce que Amboise a dit qui est très important, c'est la divagation des animaux. Vous plantez un arbre et puis vous avez des animaux qui circulent, qui broutent, qui détruisent, qui font n'importe quoi. C'est ça aussi, c'est de l'incivisme. Vous voulez faire de l'élevage, mais faites des enclos pour votre bétail.
Et surtout, nous sommes en pleine capitale.
Oui, mais les gens laissent les moutons, les poules, tout ce qui, les volailles, tout ce que vous voulez circuler en pleine capitale, sur la voie publique, des boulevards et tout. Et voilà, les gens, on plante, on reboise, on fait des choses, mais après, vous constatez que votre arbre n'existe plus parce qu'il y a des animaux qui sont passés lui faire, voilà.
D'accord.
Ce que vous savez.
Merci beaucoup. Alors, professeur, c'est vrai, nous avons invité, alors, pour ce cadre de réflexion que vous avez mis en place tout récemment et ce cadre qui va lutter pour le retrait de la nouvelle constitution et aussi la restauration de l'ancienne constitution, c'est-à-dire de 1992. Et on sait que dans ce cadre, il y a le parti ANC également qui bien sûr est dans ce cadre. Vous, en tant qu'organisation de la société civile aussi, vous figurez dans ce cadre. Il y a des journaux qui sont revenus sur une sortie alors de l'ANC hier par rapport à la nouvelle constitution et c'est le journal le Changement écrit la constitution de la 5e République consacre une dictature personnelle et militaire déguisée selon l'ANC. Autre journal, c'est le journal Chronique de la Semaine. Chronique de la Semaine, titre « Diligence pour les municipalités critiques de quelques articles de la nouvelle constitution. L'ANC donne-t-elle finalement le feu vert à la 5e République ?» C'est une interrogation du journal. Alors, professeur, c'est vrai que à la mise en place, même d'ailleurs, de ce cas de réflexion tout récemment, vous parlez de cas de réflexion et vous dites que ce n'est pas un front ni une coalition. Mais est-ce que vous avez des problèmes avec les fronts ou les coalitions?
Merci. Alors, je rectifie d'abord en disant que ce n'est pas une coalition. Puisque vous l'aurez constaté, nous n'avons pas mis en place une coordination. Il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de bureau. Ce sont des entités qui ont décidé de mettre sur pied un espace de travail. Et cet espace de travail permet d'échanger, de discuter sur des questions d'enjeu national essentiellement. Et une fois qu'on réfléchit ensemble, s'il y a des actions qu'on veut mener ensemble, on les mène ensemble dans le cadre de ce travail, mais chaque entité conserve son indépendance et son autonomie. Donc ce n'est pas une nouvelle coalition, ce n'est pas un regroupement. Toutefois, dire que ce n'est pas un front, nous considérons quand même que nous sommes un front de résistance contre ce que nous dénonçons, c'est-à-dire le coup d'État constitutionnel. Certains utilisent de plus en plus le terme de coup d'État civil. Et donc, oui, je pense qu'on peut le dire. Ce n'est peut-être pas un coup d'État militaire, mais nous avons vécu au Togo en 2024 un véritable coup d'État civil, un véritable renversement du régime constitutionnel de la 4e République. Et donc, nous pensons que nous contribuons aussi à la dénonciation de ce fait, à la lutte contre cette situation, en mettant sur pied ce front qui est un front de résistance. Mais ce n'est pas une coalition, ce n'est pas un nouveau regroupement. Donc, c'était vraiment une clarification de mon point de vue, suffisamment importante pour être portée.
D'accord.
Voilà.
Et alors, quand vous parlez alors de cas de réflexion, concrètement, vous ferez quoi dedans?
Très bien, ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est-à-dire se retrouver, réfléchir en termes d'objectifs à atteindre ensemble, les problèmes sur lesquels nous voulons travailler ensemble. Et là, je puis vous dire que la nouvelle constitution constitue la priorité contre laquelle nous nous élevons tous et nous avons passé en long et en large le processus ayant conduit à l'adoption puis à la promulgation de cette nouvelle constitution. Nous en avons relevé les nombreuses insuffisances, les nombreuses violations de la constitution de 1992 et nous sommes convaincus, et je sais que la majorité du peuple togolais également en est convaincu, qu'il s'agit d'un processus totalement illégal qui a conduit donc à l'adoption de cette nouvelle constitution. À partir de là, une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ensemble, nous avons décidé de faire une première sortie. C'est ce que nous avons fait le 3 mars. Ensemble, nous avons décidé d'organiser un meeting et les parties organisatrices donc ont adressé une note officielle à l'autorité publique. Et donc, voilà, je pense que les choses vont avancer progressivement et nous verrons ensuite ce qui sera encore possible de faire une fois qu'on aura ensemble réfléchi et ensemble décidé de poser des actes.
Mais concrètement, quels sont les moyens dont vous disposez pour y arriver?
Les moyens, quels que soient les pays que vous prendrez, lorsqu'il s'agit de lutter de façon pacifique contre un pouvoir autocratique, quels que soient les pays, voyez l'histoire, la première arme dont on dispose, c'est d'abord le peuple. Donc aujourd'hui, il est important de pouvoir mobiliser, de pouvoir remobiliser le peuple togolais. Cela passe par de la sensibilisation. Et donc, nous sommes totalement inscrits dans cette lutte pacifique. Et c'est ainsi que nous pensons qu'il va falloir retourner vers le peuple, partout où il est, à travers tous les canaux disponibles. C'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous, pour en parler. C'est pour ça que, en tant que citoyen, je serai le dimanche 23 avec tous les organisateurs de ce meeting, pour m'exprimer en tant que citoyen, pour expliquer mon point de vue, pour exprimer ma frustration en tant que citoyen togolais. Le sentiment que je ressens lorsque je vois un tel processus conduisant à une nouvelle constitution sans l'aval du peuple, sans consulter le peuple. Et voilà, et c'est comme ça, je pense qu'on va réveiller de nouveau les consciences des Togolais, les amener à se mobiliser, à se remobiliser pour aller prendre ce qui leur a été spolié, c'est-à-dire leur souveraineté, leur dignité.
Mais professeur, c'est vrai qu'il y a certains observateurs qui disent que ce cadre vient trop tard, hein, dans un monde un peu vieux, parce que on connaît aujourd'hui le processus que cette nouvelle constitution a pris, de telle enseigne que aujourd'hui il y a même le Sénat qui est mis en place et on attend la mise en place alors des autres institutions. Mais est-ce que finalement ce n'est pas venu tard vraiment?
Certainement pas. Ça, je puis vous le dire avec foi, la main sur le cœur. Certains nous avaient dit la fois dernière, le chien aboie, la caravane passe. Mais dans le même temps, vous avez une grosse majorité qui dit, vous avez totalement raison. Ce qu'ils ont fait, ça ne passera jamais, ça ne passera nulle part. Ils ont fait une bêtise. Ils continuent d'évoluer dans leur bêtise. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ils ont posé un acte qui, à l'origine, était totalement illégal. Et j'ajoute les trois qualificatifs employés par un ambassadeur. Illégitime, non transparent et non inclusif. Donc un acte totalement inacceptable au début. Ils poursuivent, mais dans une... Excusez-moi du terme, je respecte beaucoup les gens, mais dans une bêtise indescriptible. Et si nous, Togolais, nous disons que c'est trop tard, nous acceptons, excusez-moi du terme également, nous serons assimilés à cette bêtise. Je ne veux pas être assimilé à cette bêtise. Donc pour moi, j'estime qu'il n'est jamais tard pour dire « je n'accepte pas ce qui est inacceptable ». Et c'est totalement inacceptable. Ils peuvent poursuivre dans leur bêtise, mais nous avons le devoir de prendre le temps de nous organiser, de prendre le temps de trouver des ressources, de prendre le temps d'expliquer au peuple togolais, de prendre le temps de faire du plaidoyer à l'international. Et je suis convaincu qu'à l'international, beaucoup savent ce qui se passe, parce que nous avons fait des sorties, nous avons rencontré des gens, et tous disent ce qui se passe dans votre pays, c'est inqualifiable. Alors, si c'est inqualifiable, et c'est parce qu'ils ont mis en place un Sénat que nous devons nous taire et accepter, alors c'est que nous aurons vraiment accepté la bêtise.
Ah ben, c'est vrai, depuis le 6 mai 2024, à la promulgation même d'ailleurs de cette nouvelle constitution, et même avant, il y a eu des protestations, bien sûr, des protestations. On a vu même un front qui a été créé aussi entre-temps, c'est le front Tous pas à ma constitution. Mais au-delà de tout, c'est vrai que les résultats probants ne sont pas là aujourd'hui. Mais professeur, quelle chance votre cas de réflexion a pour réussir là où peut-être les autres n'ont pas réussi?
Alors, je reviens en disant que la lutte contre la dictature ne date pas du 6 mai 2024. Nous sommes inscrits dans un processus qui dure depuis plusieurs années parce que face à nous, il faut le reconnaître, il y a un système qui a pris le temps de s'enraciner depuis bientôt 60 années. 60 années, ce n'est pas peu. Ce système a eu le temps d'engranger des ressources financières, d'avoir derrière une force armée, une puissance militaire qui fait que la lutte contre une telle dictature nécessite certainement beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements, beaucoup de stratégies, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices. Si nous n'y sommes pas parvenus, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Peut-être qu'il a manqué des choses, mais tout ce qui a été fait jusqu'ici, de mon point de vue, n'est pas inutile, n'est pas perdu. Il y a eu des enseignements, je vous assure. Nous avons participé en 2017, en 2018 à des actions. Nous avons vu ce que le peuple togolais a démontré à la face du monde. Lorsque nous étions allés, je donne un exemple au Ghana, les Ghanéens nous ont dit, mais vous savez, ce que vous avez fait, tout le monde l'a vu. Tout le monde sait que le peuple togolais en a marre. Tout le monde sait que le peuple togolais veut le changement. C'était en ce moment le ministre Kadampa, je crois, comme ça qu'il s'appelle, de Nana Akufo-Addo, qui avait tenu ses propos. Tout le monde a vu le peuple togolais dire non à cette situation. Nous n'en voulons plus, il faut que ça change. Mais nous n'y sommes pas parvenus. Mais il y a eu des enseignements, nous avons appris beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que ce nouveau cadre va apporter? Ce cadre, c'est pour nous quelque chose de cohérent que nous essayons de mettre sur pied par rapport à cette situation inacceptable que nous vivons depuis des décennies et qui nous a spoliés de beaucoup de choses. Tout simplement, nous disons, nous n'entamons l'autonomie ou l'indépendance, d'aucune entité résolument engagée dans la lutte contre cette dictature. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le cadre est présent, il est créé, il est ouvert, mais il va fonctionner sur un certain nombre de règles et de critères. Parce que nous avons vu des coalitions, vous l'avez dit, naître, grandir et puis disparaître. Et il faut apprendre justement de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ces dissensions, de ces disparitions de coalitions qui pourtant paraissaient suffisamment fortes pour affronter le pouvoir? Et ayant appris de cela, nous avons essayé d'inscrire un certain nombre d'éléments dans un document que nous avons appelé charte, que certains pourraient appeler règles de bonne conduite ou tout ce que vous voulez. Et nous voulons que désormais, les discussions, les échanges, la collaboration, le partenariat entre les différentes entités, tout cela se fasse sur un certain nombre de règles. Et ces règles, de notre point de vue, doivent essentiellement s'enraciner dans la solidarité, la confiance. Ce sont des éléments qui nous paraissent primordiaux dans ce que nous voulons faire. Si nous sommes suffisamment solidaires, nous mettons en place suffisamment de confiance et de vérité dans ce que nous voulons faire, je pense que c'est une façon nouvelle d'insuffler de l'énergie à quelque chose qui veut vraiment prospérer et mettre fin à ce système.
Mais est-ce que ce sont des valeurs qui ont manqué?
Oui, hein, vous l'avez.
Vous avez mis des remèdes en place.
Je n'hésite même pas, je dis oui, c'est ce que j'ai dit. Nous avons appris de ce qui s'était passé. Et il faut clairement dire que par moment, il a manqué de la sincérité, par moment, il a manqué de la solidarité. Il faut le dire. Je ne me demandais pas de donner des exemples, je ne suis pas là pour réveiller un certain nombre de problèmes, mais c'est sûr que ce sont des choses qui ont manqué et nous voulons désormais œuvrer sur un peu plus de valeur. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des saints, bien sûr, mais nous sommes des hommes. Il y a eu des erreurs, il faut apprendre des erreurs du passé pour essayer de rebâtir l'avenir. C'est ce que nous voulons faire. Donc nous sommes un front, nous ne sommes pas une coalition, nous ne sommes pas un regroupement, nous sommes un front opposé à ce qui s'est fait l'année dernière, opposé à cette dictature qui empêche le Togo d'évoluer.
D'accord. Oui. Alors, est-ce que vous comprenez, professeur, dans sa réflexion?
Oui, c'est normal, il est cohérent. Ce qu'il a dit tout à l'heure, tout le monde comprend. Il a parlé français, on a compris. C'est vrai que la dernière fois, on était là quand on a vu sur... Bon, il a dit que ce n'est pas un regroupement. On les a vus aussi avec, aux côtés de FDR, de l'ANC, et puis... de l'autre
innovation internationale,
voilà, par rapport justement à la 5e République, mais ils ont dit que c'était pas un regroupement, mais que c'était une initiative qui va permettre justement de pouvoir, selon eux, ne pas faire aboutir la 5e République, et pour que justement les gens puissent reculer. Et la question, c'est de savoir, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans la 5e République qui va commencer justement le 6 mai, je crois, 2025. Oui. La loi est votée à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau de la situation politique, quelles sont les chances pour ces organisations de la société civile et ces partis politiques de faire reculer justement le processus?
D'accord. Professeur?
Alors, moi, je vais peut-être transformer un peu la question. Je dirais, quelles sont les chances pour le peuple togolais de faire reculer ce processus? Parce qu'aujourd'hui, c'est une situation qui n'engage pas seulement les quatre organisations qui ont signé une charte. c'est une situation, lorsqu'on parle d'une nouvelle constitution illégale imposée au peuple togolais, on ne l'a pas imposée à quatre organisations. Donc c'est tout un peuple qui perd sa dignité, c'est tout un peuple qui a été méprisé, c'est tout un peuple qui a vécu dans sa chair un processus totalement illégal, illégitime, non transparent et non inclusif. C'est une vraie insulte au peuple togolais. Partout où vous allez à l'étranger, les gens vous le disent. Ils ne vous insultent pas, mais ils font comme si, mais vous togolais, qu'est-ce qui vous se passe avec vous? Comment est-ce que vous pouvez accepter une telle situation? Comment est-ce que après autant de décennies où vous vous êtes fait marcher sur les pieds, vous acceptez encore une nouvelle constitution qu'on vous impose comme ça? Vous n'en connaissez même pas le contenu et vous l'acceptez. On vous dit qu'on a mis en place un Sénat, une présidence à vie, un président du Conseil des ministres qui n'a aucune limitation, qui lui n'est pas élu, mais lui, lorsque le Parlement n'est pas d'accord avec lui, c'est lui qui dissout le Parlement. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Mais qui êtes-vous? Quel est ce peuple qui accepte tout cela? Donc voilà, je reprends la question en disant, qu'est-ce que, justement, ce n'est pas le... Il ne revient pas aux quatre organisations de se battre contre cette nouvelle constitution, contre ce qui est inacceptable. Je pense qu'il revient au peuple togolais de se réorganiser, de se réarmer et de se dire que il est temps de mettre fin à tout cela. Nous avons besoin de plus de respect, de dignité. Et le peuple togolais, certainement, trouvera les ressources pour se mobiliser, se remettre en ordre de bataille et mettre fin à ce que nous sommes en train de vivre.
D'accord. Michel?
Professeur, j'avais envie de vous poser une question. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà donné la réponse à la question que Pascal vous a posée. Parce que je me disais, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vouloir arrêter un train qui est à une minute de la gare? Mais comme vous dites qu'il n'est pas trop tard pour mener vos actions, bon. Mais maintenant, vous avez dit dans votre votre speech, vous avez dit que vous avez appris, vous avez eu des enseignements, mais on a toujours reproché ces cadres-là, vous, ce que vous évitez soigneusement, comme on parle de coalition ou je ne sais pas quoi, de partis politiques et associations de la société civile. On a toujours reproché au Togo cette façon de faire, mais là, je me rends compte que c'est encore la même chose, puisqu'on vous a vu aux côtés des partis politiques. Est-ce que vous pensez que c'est par cette méthode ou cette manière que vous allez arriver à vos objectifs? Vous allez arriver à vos objectifs.
Ok, alors je réponds directement en disant que nous n'avons pas inventé la roue. Nous nous inspirons de ce qui se passe dans d'autres pays. Prenez le cas du Mali, prenez le cas du Sénégal. Lorsqu'il a fallu que le peuple se lève contre une situation inacceptable. Je prends l'exemple du président Macky Sall qui voulait s'incruster au pouvoir et faire un troisième mandat. Lorsqu'on a mis en place des fronts de résistance, dans ces fronts de résistance, vous retrouvez des partis politiques, vous retrouvez des organisations de la société civile. Au Mali, le MO5, je pense que ce ne sont pas que des partis politiques, ce ne sont pas que des organisations de la société civile. Donc tout cela prouve à suffisance que nous sommes avant tout des citoyens. Et ce cloisonnement partis politiques, organisations de la société civile, de mon point de vue, il reste très superficiel lorsque la nation est en jeu. Et aujourd'hui, la nation togolaise est en jeu. Ce qu'il est en train de faire est en train de déconstruire notre nation. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et en tant que citoyens, nous devons nous lever. Que l'on soit membre de partis politiques ou que l'on soit membre d'organisations de la société civile, avant tout, on est citoyen togolais. On est fils de ce pays. On est fille de ce pays, fier de l'être. Et alors, ensemble, on se lève et on décide de combattre. Donc, voilà moi ce que je peux vous répondre. Pour moi, ça n'a rien d'inédit. Les Togolais n'ont rien inventé. Les Togolais sont dans une situation inacceptable. Et les Togolais, ensemble, ont décidé de mettre de côté ces cloisonnements superficiels, inutiles, société civile, parti politique, pour faire front commun.
D'accord. Ambroise?
Oui, d'abord, j'ai deux approches. La dernière sera une question que j'aurais à poser au professeur David. Maintenant, la première, c'est cette histoire de constitution de la Ve République qui revient à tout bout de champ. Parce que ce qui est réel et qu'il est en train de dénoncer, c'est le fait que dans cette constitution que nous, on n'a pas eu la chance de lire en toute sincérité, dans son fond et en la forme, d'accord, mais dans le fond, puisqu'il y avait plusieurs constitutions à la fois. Je ne sais pas.
Les trois versions, au moins trois versions.
Que moi j'ai actuellement, au point que ça m'a découragé à le relier. Maintenant, j'ai comme l'impression aussi que les gens sont en train de nous écouter, ils nous suivent pour pouvoir modifier ce qui est modifiable, qui va dans leur sens. Maintenant, quand on parle de régime parlementaire, j'ai aimé une expression utilisée par M. Jean-Pierre Pabre dans sa sortie, je crois, c'est le mercredi.
Non, c'est hier seulement.
Hier, voilà. Il parle de constitution bâtard. Parce que vous avez hybride bâtard. Quand on parle de quelqu'un qui est bâtard, il n'a pas de père ni de mère. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'une constitution qui est bâtard, vous avez dit qu'il n'y a pas de référence, qu'il n'y a pas de référentiel, en fait, dans le monde. Vous allez remarquer que tantôt, c'est l'Allemagne et l'Italie qui étaient les deux drapeaux brandis par nos amis qui sont au pouvoir. Après, c'est l'Inde. Ils se sont même allés pour dire que bon, c'est parce qu'ils cherchaient la cohérence qu'il devait avoir entre leur fabricant et ce qui se passe ailleurs. Maintenant, j'ai l'impression que finalement, ils ne se retrouvent ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Maintenant, ils tombent maintenant sur le Canada. Tu as suivi la dernière fois, non? Maintenant, c'est le Canada qui est la référence.
On a mené le débat ici.
Aha. Alors qu'en réalité, je le dis et je le répète, qu'un régime parlementaire, c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir que détient le peuple qui transmet aux députés à l'Assemblée. Et c'est le député qui peut démettre le président dans le gouvernement qui est en déphasage avec sa propre... Comment on dit ça? Le programme de société qu'il aura présenté devant les députés. Mais ici, dans notre constitution, la nouvelle constitution, la fameuse, la bataille constitution, c'est le contraire. Maintenant, ici, c'est un président du conseil qu'on nomme. On se dit qu'il est le président du parti majoritaire qui démet une assemblée nationale élue par le peuple. Vous ne voyez pas qu'il y a une dichotomie? Il y a un renversement de situation. Et quand vous lisez les approches du président de l'ANC, vous comprendrez qu'il y a un problème sérieux qui risque de mettre un frein même à cette nouvelle constitution d'ici peu. Parce que même les grands spécialistes, les juristes publicistes qui sont dans ce monde, quand ils viendront voir, lire ceci, ce n'est même pas possible. C'est-à-dire qu'il y a plus de présidentialisme que du parlementarisme, ou bien que du régime parlementaire. Parce que le régime parlementaire en soi, c'est le pouvoir du peuple, quoi. C'est le peuple qui donne ce pouvoir. À qui? À ses représentants. Maintenant, ses représentants peuvent être démis par un président qui n'a jamais été élu. Non, ça n'a pas de sens. Maintenant, je laisse ça là.
Oui, la question.
La question maintenant, c'est... Ça rejoint ce que tu as posé comme problème. C'est-à-dire qu'il est nous sommes dans un pays où la nomenclature des contingences politiques même fait fuir certains citoyens. Parce que quand on parle de parti politique maintenant à Lomé, les gens se réservent. Au vu de ce qu'on voit souvent, que ce soit au niveau de plusieurs partis politiques, hein, il y en a la dernière fois qui se débattaient dans les eaux pour pouvoir se justifier pourquoi ils ont quitté un regroupement. Je parle du NI. Maintenant, l'ANC qui a perdu quelques plumes ces derniers temps, qui n'en finit pas. Et il y a aussi... Et dans l'objectivité, il faut qu'on aille droit au but pour que s'il y a des problèmes à régler à l'interne de certains partis politiques, ils puissent le régler. Il ne faut pas qu'on voile les choses, qu'on cache les choses et que ça finit par les détruire eux-mêmes. Quand vous ne voulez pas qu'on vous envoie des correctifs ou des observations, vous allez vous détruire. Il faut quelqu'un qui est de l'extérieur qui vous dit que, ah, manière dont tu joues la balle là, il faut la mettre ici. Mais non, ce que les gens craignent, c'est qu'il y ait une phagocytose. Je ne suis pas dans la science. Mais je sais que quand vous vous mêlez ensemble avec quelques personnes, ça risque même de vous renvoyer certains derrière. C'est vrai, il a cité l'exemple du Mali et autres, même en Guinée, le FNDC, tout ça là, c'est des regroupements de partis politiques et de sociétés civiles. Et ça gêne des gens là-bas. C'est en cela, je crois que c'est possible que ça puisse gêner ici. Mais on en a eu à faire cette expérience-là. Et je me dis que, est-ce que eux, professeur David Dosset et leur... les autres membres de la société civile. Il ne peut pas constituer un front essentiellement de la société civile et laisser les partis politiques jouer leur rôle. En plus, il y a d'autres formations politiques regroupées dans d'autres regroupements. Pourquoi ils ne sont pas associés à ça? Est-ce qu'ils les ont invités?
D'accord.
Il y a celui de Jean-Nathan Olympio, il y a la DMP qui regroupe plusieurs formations politiques, il y a encore d'autres partis politiques.
DMK également. Voilà, professeur, la question alors d'Ambroise.
Intéressante. Je reviens toujours en disant que pour moi, le cloisonnement, lorsque vraiment la nation est en danger, si vous lisez la Constitution de 92 dans son article 150, elle n'a jamais dit que les organisations de la société civile fassent ci et que les partis politiques fassent ça pour défendre la nation. La Constitution de 1992 fait appel aux citoyens. Et donc, nous sommes avant tout des citoyens, avant d'être membre de partis politiques ou avant d'être membre d'organisations de la société civile. Donc, pour moi, autant ce cloisonnement peut être nécessaire dans certaines circonstances, quand la nation est en danger. Aujourd'hui, la nation togolaise est en danger. Je pense qu'Ambroise l'a démontré. Lorsque vous avez la première loi, la loi fondamentale, la mère de toutes les lois, qui est une loi totalement remplie d'aberrations, de choses totalement biscornues, et que vous acceptez cela, c'est extrêmement grave. Donc notre nation est en danger. Il faut que nous voyions comment est-ce que nous pouvons mutualiser les forces et les énergies pour faire front. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, sachez que effectivement, nous avons mis plusieurs mois à réfléchir ensemble, à discuter ensemble, à avancer, à reculer ensemble avant d'officialiser par une sortie le 3 mars ce cadre qui est un cadre de réflexion qui n'est pas une nouvelle coalition. Nous avons commencé les premières réunions, je crois, au mois de juin, si mes souvenirs sont bons. C'est pour dire que nous avons... Je ne pense pas qu'il y ait eu des regroupements qui n'aient pas été approchés, qui n'aient pas, avec lesquels nous n'avons pas eu de discussion ou d'échange. Certains nous ont dit clairement, vous savez, pour nous, nous avons pris acte de la nouvelle constitution. Nous avons pris acte de la 5e République et certains ont même utilisé le terme de résilience. Nous allons nous inscrire dans la résilience. Bon, après, ils ont essayé d'expliquer ce qu'était la résilience. Nous avons pris également acte de ce que eux, ils avaient décidé de faire. Ensuite, nous avons rencontré d'autres qui avaient également des points de vue divergents ou différents, peut-être pas divergents, mais pour le moins différents. Et nous avons compris que pour l'heure, il fallait, parce que nous, ce que nous avons mis en avant, c'est que oui, dire que il faut tout mettre de côté, c'est le peuple togolais qui est le plus important, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Mais dire qu'on doit bâtir sans mettre en place des critères de fonctionnement, pour moi, c'est peut-être une erreur de ma part, c'est peut-être une erreur de la part de ceux avec qui nous sommes aujourd'hui, mais nous estimons qu'il faut des règles. C'est ce que nous avons mis en avant. Certains ont estimé que non, il fallait mettre de côté les règles, se mettre tous ensemble et foncer. Nous avons vu ce que ça a donné par le passé. Et à chaque fois, c'est vous-même, les journalistes, qui nous dites, mais... est-ce que vous avez appris des erreurs du passé? Et donc, nous avons tenu, vaille que vaille, à mettre sur pied un ensemble de critères, de règles, de fonctionnement autour desquels nous comptons construire ce front, construire la résistance contre ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, voilà, je vous assure que vous pouvez demander à toutes les autres entités, il y a eu des moments d'échange et de discussion. Et aujourd'hui, nous l'avons dit, aucune porte n'est fermée. Le cadre est totalement ouvert. La seule condition, c'est que si vous venez, il y a des règles de fonctionnement. Et je l'ai dit, les trois éléments qui nous paraissent primordiaux, c'est ce que j'ai dit tantôt, la vérité, la confiance et la solidarité.
D'accord. Et professeur, c'est vrai que vous parliez alors de ce meeting alors du 23, c'est-à-dire le dimanche prochain. Mais est-ce que toutes les dispositions sont prises pour que ce meeting ait lieu ou puisse alors se tenir?
Écoutez, si vous voyez sur la lettre qui a été envoyée à l'autorité publique, vous avez les noms de trois organisations. Donc ça veut dire que moi, en tant que responsable du Front Citoyen Togo Debout, je ne suis pas dans la cellule d'organisation de ce meeting, mais je suis citoyen togolais. Je revendique cette citoyenneté. Et en tant que tel, je dis même que l'appel du 23, ce n'est pas l'appel de quelques organisations, c'est l'appel du drapeau togolais. Le drapeau togolais nous dit, citoyen togolais, lève-toi, la nation est en danger. Ce qui se passe, c'est inacceptable, trop c'est trop, il faut que ça cesse. Donc c'est à cet appel que nous voulons répondre. Et je pense que le comité est constitué de personnalités suffisamment expérimentées en matière d'organisation et qui savent qu'aujourd'hui, il y a une réglementation pour tout ce qui concerne l'organisation de manifestations publiques. Et je sais que les demandes ont été adressées à qui de droit et en temps voulu. Si ce meeting ne doit pas se faire, ce ne sera certainement pas du fait des organisateurs. Ce sera peut-être dû au fait que le parti au pouvoir... ne voulant pas permettre aux Togolais de s'exprimer comme on le voit depuis plusieurs années, voudra encore une fois s'opposer à la libre expression des Togolais et va chercher peut-être un prétexte pour empêcher ce meeting. Mais sinon, pour ce qui concerne la loi, je suis convaincu que toutes les dispositions ont été prises et respectées par les parties organisatrices de ce meeting.
D'accord. Et l'homme ?
Deux questions. La première, quelle est justement la lecture que fait le professeur Dossier des élections qui seront organisées après le 6 mai 2025 ? La deuxième, c'est de savoir si le fait pour l'un des organisations signataires
De
cette charte là, parce que pour le moment officiellement c'est ce parti qui a dit qu'il ira aux élections municipales qui auront lieu probablement dans le dernier trimestre de l'année. Est-ce que le fait pour ce parti de se positionner d'ores et déjà comme candidat à ces élections municipales ne fausse pas le jeu?
D'accord, professeur.
En tant qu'organisation de la société civile, en tant qu'acteur de citoyen engagé, j'ai toujours dit, ce n'est pas la première fois que je vais le dire, j'ai toujours dit que pour moi, mon rêve, c'est un pays dans lequel la dévolution du pouvoir se fait à travers des élections libres, transparentes, démocratiques, quel que soit le niveau d'engagement, que ce soit au niveau communal, au niveau parlementaire et au niveau présidentiel. J'espère qu'on aura la possibilité de revenir au suffrage direct pour élire le président de la République. Voilà, quel que soit ce niveau, je ne voudrais pas que ce soit un coup d'état militaire, un coup d'état civil, quelqu'un qui soit le plus fort, qui soit le plus riche, qui accapare le pouvoir. Il faut que ça soit la volonté du peuple, que cela se fasse à travers les urnes. Ça, c'est ce pourquoi je me bats. Je suis militant pro-démocratie, c'est mon rêve pour le Togo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous avons des conditions qui ne se prêtent pas à ce jeu démocratique. Et vous aurez peut-être constaté qu'à chaque fois qu'il y a eu des élections dans notre pays, en tant qu'organisation de la société civile, le Front citoyen Togo Debout n'a jamais dit « je suis pour ou je suis contre ». Nous pensons que c'est un moyen par lequel le peuple exprime sa volonté, il fait son choix, même si à la fin, au bout du processus, le peuple malheureusement ne bénéficie pas de la vérité des urnes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Personnellement, je pense qu'il faut continuer à se battre pour des élections libres et transparentes. Il faut se battre pour que les conditions changent. Et pour que cela puisse se faire, si vous avez un électorat que vous pouvez organiser, même si les conditions sont difficiles, je répète encore cette partie, si vous avez un électorat que vous pouvez organiser, le motiver, faire en sorte que les gens sortent en masse, que les gens restent pour protéger ce qu'ils ont fait, même dans les conditions les plus difficiles, vous pouvez arriver à tirer votre épingle du jeu. Tout se situe là, de mon point de vue. S'il y a un parti aujourd'hui qui veut aller à une élection dans les conditions que nous connaissons et qui ne travaille pas pour armer son électorat, il va perdre de l'argent, il va perdre du crédit, il va perdre de l'énergie. Ça, c'est une certitude. Mais je ne vais jamais dire qu'un parti ne doit pas aller à une élection. Je ne pourrai jamais le dire. Parce que moi, mon rêve, c'est que les élections soient une réalité tangible et crédible dans mon pays. Je ne sais pas d'accord. si j'ai répondu à votre question, Elon.
Oui,
vraiment, c'est ce que je pense.
D'accord, Michel ?
Oh, bon. On peut avancer.
D'accord, oui, professeur. C'est vrai que tout récemment, nous avons vu cette sortie alors du professeur Robert Doucet par rapport à une quelconque adhésion du Togo à l'AES. Tout récemment, même sur sa page Facebook, il a réitéré encore cette notion alors d'adhésion du Togo à l'AES. Mais comment vous appréciez quand même cette sortie alors du professeur Robert Doucet, professeur?
Vous avez vu que quand vous avez posé la question, j'ai souri parce que j'ai l'impression qu'on nous fait perdre du temps. On a un pays à construire. Nous avons des difficultés énormes. Les services de base ne fonctionnent pas. La santé, l'éducation, quel est le modèle économique de notre pays? Sur quoi nous voulons nous appuyer pour bâtir ce pays, pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi, que les jeunes ne soient pas obligés de traverser le désert ou la Méditerranée pour aller en Europe? Ça, c'est les vraies questions. On est en train de nous faire perdre du temps avec cela. Et moi, je réponds, et je vais encore répéter cela ici, le Togo s'en fout de l'AES. Le Togo n'a aucune idéologie par rapport à l'AES. C'est du chantage. Pourquoi est-ce que je le dis? Cela fait des années que nous nous sommes engagés dans la lutte pour que cette institution communautaire à laquelle nous appartenons, le Togo y appartient encore aujourd'hui, qu'est la CEDEAO, nous puissions renforcer la CEDEAO. En 2017, je crois que c'était en juin ou en juillet, avant le début des grandes manifestations, nous avions organisé à la CEDEAO, avec d'autres organisations citoyennes sœurs ouest-africaines, un grand colloque sur justement la CEDEAO et le protocole de bonne gouvernance et de démocratie de la CEDEAO. Nous avons tous admis le fait que c'était un document magnifique, un outil phénoménal pour consolider la démocratie à condition qu'on accepte de l'appliquer. Et donc nous avons dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à renforcer ce document? Et pour nous, ça a été une joie extrême de savoir que en 2015, justement, la CEDEAO avait voulu renforcer ce document, enraciner davantage la démocratie. Deux pays s'y étaient opposés, notre dictature togolaise et la dictature togolaise gambienne. La dictature gambienne. Deux pays. En 2022, la CEDEAO se dit, il faut, les gens demandent que la démocratie se renforce. Ce qu'on leur sert, c'est de l'illusion démocratique, c'est pas de la démocratie. Il faut qu'il y ait le principe de limitation des mandats, etc., etc. 2022, la CEDEAO essaie de nouveau. Le Togo, encore une fois, dit non. Le seul pays à s'être opposé deux fois, historiquement, c'est le Togo. Plus Macky Sall qui voulait faire un troisième mandat, plus Ouattara qui était dans son troisième mandat. Voilà donc la vraie situation. Le Togo sait qu'il y a cette institution communautaire qui, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher. Souvenez-vous, en 2018, j'étais monté à la fin du meeting, j'étais monté sur le podium pour dire que nous retirons notre confiance à la CEDEAO. Ça veut dire que nous avons beaucoup de choses à reprocher à la CEDEAO. Mais en même temps, nous savons que la CEDEAO, nous pouvons la renforcer et en faire un bel outil. Quand vous voyez toutes les organisations régionales et continentales, tout le monde admet le fait que la CEDEAO avait les meilleurs outils. Mais certains ont voulu démanteler la CEDEAO. Et quand moi je vois des activistes qui se disent pro-démocratie, dire qu'il faut démanteler la CEDEAO, je leur dis, mais vous faites le travail du pouvoir togolais. C'est ce que le pouvoir lui veut. Si aujourd'hui on dit, on met une croix rouge sur la CEDEAO, le pouvoir togolais va applaudir. Moi, je ne peux pas dire ça. Je sais que la CEDEAO a des insuffisances, mais en même temps, elle peut aider à construire la démocratie. Et donc, juste pour finir, si le Togo fait ce chantage aujourd'hui, c'est un chantage vis-à-vis de la CEDEAO. Vous voulez faire une troisième tentative de réforme. Si vous faites une réforme qui va dans le sens où vous allez consolider la démocratie, je vais à la haie. Ça n'a rien d'idéologique.
D'accord. Ambroise ?
Oui, j'apprécie la dernière réflexion du professeur David par rapport à la CEDEAO. J'ai réfléchi par rapport à ce qui se passe et j'ai compris que même les 70% dont parle monsieur Doucet, qui souhaiterait des Togolais qui souhaiteraient que le Togo rentre dans l'AES. En ce moment, il n'y avait pas eu cette visée-là, que le Togo aussi va entrer dans l'AES. Parce que les populations togolaises avaient compris qu'il y a une dynamique qui se construit là-bas, même si c'est des régimes militaires. Les gens écoutent leur peuple. Ils sont venus parce qu'il y a eu un coup d'État, et il y a eu un coup d'État parce qu'il y avait eu des gens qui ne voulaient pas partir. Le cas de la Guinée, par exemple, le cas du Mali, qui est instrumentalisé par le régime, les dirigeants français et tout. Et donc, aujourd'hui, on fera l'erreur. Parce que la CEDEAO, par essence, au début, était une conception économique. Était basée sur la conception économique. Construisons une communauté économique. C'est après que ce soit greffé le volet économique dans les années 2000-2001, avec le protocole additionnel et qui est sur la bonne gouvernance et la démocratie. Donc, si on veut détruire la CEDEAO, vous allez voir que le gouvernement togolais fuit la CEDEAO désormais. On veut fuir pour aller se réfugier là-bas, pour éviter que ces histoires de limitation de mandat là, que ça nous quitte définitivement. C'est un faux problème. Donc moi je dis, si jamais le Togo rentre dans l'AES, nous allons les combattre aussi là-bas. Parce que je n'ai pas fini. Et donc pour te dire qu'aujourd'hui, le Togo fuit la CEDEAO et la cour de la CEDEAO. Tous les jugements qu'on fait maintenant, on interpelle le Togo, il ne répond pas. C'est ça qui veut justifier leur départ au niveau de la CEDEAO. Donc pour finir, je crois fondamentalement aujourd'hui que nous devons soutenir, comme il a dit, la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, quoi qu'on en dise, est la meilleure structure de toute l'Afrique. Qui fonctionne, même le mois, les directives dont on parle. Ça se passe entre États. La CEDEAO a repris beaucoup et le mois s'est inspiré aussi de beaucoup. Et ça nous aide au moins. Et les gens nous envient maintenant, nous on veut quitter la CEDEAO parce que la CEDEAO veut qu'on limite les mandats d'eux. Non.
D'accord. Et là,
Vous savez, moi, la dernière fois, j'avais fait une analyse par rapport à ce dossier Togo AES et DAO. J'ai donné suffisamment de raisons. J'ai dit, mais vous savez, historiquement, ça va être compliqué pour le Togo de quitter la CEDEAO. Très compliqué. Parce que c'est vrai, bon, moi, quand j'écoute le ministre Doucet, ça me fait sourire. Et je suis allé loin en disant que je souhaiterais personnellement écouter le chef de l'État sur le sujet. Parce que on se débarrasse pas comme ça d'une institution. C'est vrai que au niveau de l'AES,
mais est-ce que le ministre Doucet n'est pas la voix du chef de l'État?
Moi, je ne dirais pas. C'est pas peut-être la même chose. Ça, c'est mon avis personnel.
Oui, c'est votre avis. Tout quoi bizarre.
Ça, c'est mon avis personnel. Parce qu'on ne peut pas. Parce que les raisons qu'on avance, les raisons qui sont avancées par rapport à l'AES pour que le Togo, voilà, puisse y adhérer, c'est pas des raisons qui tiennent. Excusez-moi, mais c'est pas des raisons qui tiennent. Que bon, on va servir de, on a le port, on a la sous-région, mais sans les trois pays, nous on peut pas fonctionner économiquement. Mais c'est pas des raisons qui tiennent. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il y a deux institutions sous-régionales de la CEDEAO qui sont à Lomé, dont le siège est à Lomé, la BIDC et l'ARA, l'Agence sous-régionale pour l'agriculture et l'alimentation. Vous avez le Togo qui est membre fondateur de la CEDEAO. Les 50 ans de la CEDEAO, selon les informations, seront célébrés à Lomé. Vous comprenez ça? Ce que je décris là, vous comprenez ça?
27 mai 75.
Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, nous, on ne peut pas. C'est-à-dire que dans tous les ensembles réunis, quand vous convoquez l'histoire de la CEDEAO, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous lever comme ça, en tapant du poing sur la table. Oui, ceci, oui, cela. C'est pas comme ça. C'est pas un ticket automatique, en fait. Et puis, autre chose, vous avez dans l'AES des pays qui se retirent de la francophonie. Aujourd'hui, c'est la journée de la francophonie.
Tout à fait.
Et vous avez des pays qui se retirent de la francophonie, dont le membre fondateur même, le traité fondateur de la francophonie, c'était à Niamey.
Le Niger?
C'était à Niamey, le Niger. Mais le Niger, aujourd'hui, vous dit qu'il se retire de la francophonie. Pourquoi? Parce que simplement, les gens pensent que, bon, quand on a pris le pouvoir par un coup d'État, l'institution nous a sanctionnés. Mais historiquement, ils ne l'ont pas dit officiellement. Mais quand vous écoutez, vous regardez les choses, vous dites, mais si c'est juste pour ça, alors que la CEDEAO qui s'est battue pour l'intégration des peuples, aujourd'hui, avec un passeport, vous pouvez circuler dans toute la communauté. Mais le pays de l'AES, avec leur passeport, aujourd'hui, ne peut pas demander un visa Schengen. Demander à leurs ressortissants, ils ne pourront pas. Mais c'est ça là qu'on veut pour nos pays. C'est ça. Bon, la question
est... Oui, mais, oui, Michel.
Non, ce débat par rapport à l'AES, moi, je me demande ce qu'il faut. C'est un débat qu'il faille la peine de faire. Parce que quand vous voyez le Togo aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que le Togo gagne en allant à l'AES. Hein. Si Robert Doucet est ami personnel d'Assimi Goïta, bon, qu'il gère son amitié avec lui, mais qu'il n'entraîne pas tout le Togo dans ces sorties bizarres-là, moi, honnêtement, moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a avec l'AES. S'il est ami à Assimi Goïta, c'est tout le monde a des amis, hein. Mais qu'il ne traîne pas tout le Togo, mais qu'il ne pousse pas le chef de l'État à une faute grave. Qu'est-ce que l'AES nous apporte? On dit, les trois pays-là, le Togo qui a un port en eau profonde, désormais, mais, alors qu'on nous dit au même moment que le port ne nous donne rien. Mais alors, qu'est-ce que nous gagnons dedans? Moi, je dis, nos problèmes sont ailleurs. Que Robert Doucet ne nous amène pas dans des trucs que nous ne maîtrisons demain. Et puis, qui vous dit que l'AES, là, ils ont de l'avenir?
D'accord.
Qui vous dit que ces pays ont de l'avenir? Donc, moi, je dis nos problèmes, là. Nous allons les régler. On n'a pas besoin de l'AES.
D'accord, ok, merci. Voilà. Professeur, oui, il y a l'homme qui l'a évoqué tout de suite, et je l'évoquais aussi hein, dans mes mots introductifs, parlant même d'ailleurs de ce retrait des trois pays de l'AES, de la francophonie. Aujourd'hui, c'est la journée internationale même d'ailleurs de la francophonie. Mais ces trois pays qui se retirent alors de la francophonie, de l'EIF, finalement, est-ce que vous arrivez à comprendre?
Alors, bon, je vais essayer de me placer dans l'esprit, dans la peau d'un dirigeant du Niger, du Mali, du Burkina. Je pense qu'ils sont dans une stratégie qui, jusqu'ici, a plus ou moins bien fonctionné, puisque ça leur a permis de rester et de continuer à œuvrer à la tête de leur pays. Et je pense que c'est dans cette même stratégie, ce discours, cette propagande anti-occidentale que s'inscrit cette sortie de l'EIF, de la francophonie. Bon, on ne peut pas leur reprocher de cette cohérence. En tout cas, ils sont cohérents dans ce qu'ils ont décidé de faire. Ils continuent de le faire. Donc, il a dit, est-ce que ça va prospérer? Personne ne le sait. On verra bien. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont totalement pour l'AES. Il y a des gens qui sont dubitatifs. Moi, je préfère ne pas donner ma position ici en public. Mais ce que je dis, je reviens vraiment à ce que Michel a dit. Pour moi, ce débat, AES ou pas, c'est un faux problème. Nos priorités sont ailleurs. On cherche à détourner notre regard. Mais toutefois, je vais quand même dire encore un mot. Je reste convaincu que si M. Doucet a dit quelque chose et il s'est permis de réitérer cette même proposition, c'est que quelque part, cela part d'une stratégie. D'un système qui sait, parce que nous l'avons appris lorsque nous étions en juillet à Abuja, à la commission de la CEDEAO, qui sait que la troisième tentative va être faite bientôt. La troisième tentative de réforme du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Après les deux échecs, il va y avoir une troisième tentative, peut-être à l'occasion du 50e anniversaire. Alors, le calcul est simple. Est-ce que je continue encore de m'opposer? Je serai le seul pays à s'être opposé à trois reprises, où je mets en place une autre stratégie. Et je pense que le Togo a fait le choix d'une autre stratégie. Une nouvelle constitution, une limitation de mandat pour un chef d'État qui n'a aucun pouvoir. Et là, si la CEDEAO dit limitation des mandats présidentiels, je dirais, voilà, regardez la nouvelle constitution, j'ai limité le mandat du chef de l'État. Tout le pouvoir concentré, même plus que... Regardez, je pense que l'ANC a fait quand même un très beau travail sur... l'article 50 de la nouvelle constitution, les attributions du... 54, c'est incroyable. 54. C'est incroyable ce que le président du conseil des ministres a comme attribution. C'est énorme. Voilà, donc il a tout le pouvoir et aucune limitation. Et en plus, quand il vient présenter son document de politique à l'Assemblée, si l'Assemblée n'est pas d'accord, ce n'est pas lui qu'on fait tomber, c'est lui qui fait tomber l'Assemblée. C'est incroyable. Voilà la situation dans laquelle on est. Et donc... Le Togo se dit, il va y avoir une réforme probable. Donc j'anticipe et en même temps, j'avertis la CEDEAO. Si vraiment vous faites une réforme, parce que nous, c'est ce que nous avons maintenant comme cheval de bataille, c'est la disposition limitant les mandats des chefs d'État et de gouvernement. C'est ce que nous avons ajouté compte tenu de la nouvelle constitution.
Là, le monsieur est coincé.
Et je sais que eux, ils sont en train de faire un travail de plaidoyer en disant, jamais on ne limite le mandat dans un régime présidentiel. Et quelqu'un de la CEDEAO m'a dit ça. Nous avons eu deux séances de travail, commission, gouvernement togolais, et on ne peut pas, il me disait ça un peu gêné, on ne peut pas limiter le mandat dans un régime parlementaire. Je lui ai posé la question, monsieur, l'organe suprême de la CEDEAO s'appelle comment? C'est bien la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ça veut dire que, selon les pays, le pouvoir est entre les mains, soit du chef de l'État, soit du chef de gouvernement. Et vous comprenez alors que quand on va limiter... On limite pour les chefs d'État, mais qu'on ne limite pas pour les chefs de gouvernement. Et là, il n'a pas su répondre. D'accord. Bon, on pourra poursuivre le
justement,
débat.
Justement, on pourra poursuivre le débat parce que nous venons de passer plus de une heure de temps dans ce débat. Et le principe de l'émission, c'est que les auditeurs puissent également intervenir dans ce débat à travers nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Canal FM. Nous revenons en plateau pour s'ouvrir à vous, hein, vous auditeurs. Vous pouvez nous appeler sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Bonjour.
Pascal, bonjour.
Oui, Patrick.
Oui, c'est Monsieur Abalo.
Ah, c'est Monsieur Abalo plutôt.
Je vous appelle d'Angouin.
D'accord. Allez-y.
Bon, moi, j'aimerais réagir sur deux questions.
Oui.
Vraiment, pour le problème de l'AES, la définition de l'AES, c'est quoi? C'est l'alliance des États du Sahel. Non?
Oui.
Est-ce que le Togo est un pays du Sahel? Sinon, moi, si vraiment le ministre, professeur Doucet, un professeur encore, il a vu la définition là d'abord avant d'écrire des trucs sur sa page que le Togo va aller dans l'AES pour faire quoi? S'il cesse de dire le chef de l'État en erreur comme ça suffit. AES, on va pour faire quoi? S'il n'y a pas AES, les pays du Sahel, là, ils viennent au port de l'Omessie chercher leurs marchandises depuis. Sans l'AES, On a trop de problèmes que encore aller mettre le chef de l'État dans d'autres situations. Après, quand ça dégénère, c'est le chef de l'État seul qui est le seul à endosser les trucs. Ça suffit comme ça. Bon, deuxièmement, pour le professeur, j'ai une question au professeur.
Oui, allez-y.
Il est là-bas.
Oui, il est là. Allez-y.
Ils ont créé des regroupements depuis. Ça ne donne rien. Coalition, quoi. Depuis, ça ne donne rien. Mais ils viennent dans ce problème de 5e République. Un train qui est déjà, a déjà démarré. Et est presque, est proche de sa destination. Vous venez que vous voulez mobiliser les Togolais pour faire quoi encore? Pardon, professeur. Allez vous reposer, allez s'il vous plaît, avec tous les ressorts que j'ai. Il est temps d'aller vous reposer et d'aller voir vos élèves au campus. Parce que ce qui est déjà fait, c'est fait quoi. Et laissez-nous, c'est-à-dire les Togolais avec le problème du 5e République. Les Togolais ont faim, on a besoin des routes, des infrastructures. Que le problème du 5e République, vous allez encore mettre les Togolais, c'est-à-dire dans les rues.
Merci beaucoup, merci beaucoup, Abalo. On va donner la parole à d'autres personnes. 90 86 35 35. Allô?
Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, Chapelli.
Oui, Chapelli.
Oui, allez-y.
Je pense que le train de la 5e République n'est pas encore allé à la destination. Il va se bloquer. Et je pense que nous sommes dans ce pays. La transition de Kofibé a été bloquée le 3 décembre. Alors, je ne pense pas que le peuple même a son destin. Mais quand on pose la question, ou bien un journaliste pose la question aujourd'hui à des leaders, des partis politiques, de lutter, est-ce que ce qu'on est en train de faire peut faire quelque chose? Est-ce que tous ceux qui sont sur ce plateau-là sont satisfaits de la 5e République? Est-ce que vous n'êtes pas satisfaits? Agis. C'est ça. Sinon, le peuple même qui devait sortir pour les élections législatives et régionales la fois dernière a vu d'autres moyens de faire sa lutte. Comme on dit, si vous voyez un mandat qui veut se tuer en parlant, c'est parce qu'il veut le choix de ça qu'il a trouvé une solution. C'est le peuple qui a son destin à main. Donc, je pense que la 5e République, comme nous impose unilatéral avec un seul parti politique, ce qui n'a jamais existé dans le monde entier, ce n'est pas au CD qui va inventer ça. Pour aller à une République, il faut qu'un parti politique s'asseye et puis crée une République un matin. Pour montrer à sa population.
D'accord.
La population ne peut pas accepter.
Ok, merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
Allez-y.
Je salue l'invité. Je ne sais pas s'il a suivi. Je ne sais pas si on aura beaucoup les appels ou bien comment le sénateur Abbas Kaboua est super arrivé.
T'es le vénérable?
On les appelle comment?
Oui, des vénérables.
Des vénérables.
Oui.
Ok. Merci. On lui avait posé la question. Toi qui disais que on ne fait pas une loi pour une personne. On fait une loi pour une nation, pour qui? Maintenant, comment vous êtes retrouvé sans passer par la consultation du peuple, c'est-à-dire le référendum? Il disait à Darere que elle a choisi la partie qui l'arrange, c'est-à-dire la Constitution. Eux ont choisi la partie qui les arrange, les 4/5. C'est-à-dire qu'ils ont fait une Constitution qui arrange une minorité et non pas pour le peuple. Ou bien, comment vous voyez ça, professeur? Vous allez décrypter l'analyse de M. Abbas Kaboua, voilà, parce qu'il nous a dit clairement que ce n'est pas une Constitution du peuple. C'est une fonction qui les arrange. Concernant leur entrée dans l'AES, on est habitué aux grimaces du régime. Mais je crains seulement pour les pays de l'AES, parce que je ne sais pas qui a détruit la CEDEAO. Qu'est-ce qui ne va pas dans la CEDEAO? Et patatras, je vois nos tout-puissants parmi les trois pays de l'AES, dont on connaît que pas le monde, sont au pouvoir par le coup d'État. Ou bien, ils s'infiltrent parce qu'ils ont fait le coup d'État. Bonne interrogation. Bonne émission.
Merci beaucoup, M. Nyamavo, pour votre intervention. Allô?
Oui, c'est Pélé qui revient.
Oui, Pélé, allez-y rapidement.
Bon, par rapport à l'AES, je pense que la déclaration du ministre Bissé,
tout temps, je pense que un ministre qui se rend ne peut pas parler en l'air. Maintenant, la question, si le Togo va dans la US, on verra le mois de mai, les 50 ans de la CEDEAO, comment ça va se célébrer. À partir de là, on verra si le Togo a un pied dans la CEDEAO, un pied dans la US. Comme on dit chez nous souvent, Edivenabia a gagné ce bagarre. Merci.
D'accord, merci beaucoup Pellier. Bonjour le plateau, merci au professeur David Ousset pour le travail que vous abattez. Le pouvoir au Togo est comme si quelqu'un est monté au sommet d'un cocotier, soit il descend un jour, il tombe parce qu'on ne peut pas s'accrocher au sommet d'un cocotier éternellement. C'est Mohamed qui nous écrit depuis Casablanca. Allô?
Allô?
Oui, Basile, bonjour.
Bonjour, non, c'est pas Basile.
Ah, c'est pas Basile?
Non, non, c'est Jérôme qui vous appelle.
Jérôme, vous nous appelez de quel quartier?
Bien.
Allô, Jérôme?
Oui?
Vous nous appelez de quel quartier?
Ahankopé.
Ahankopé, allez-y.
Merci. Bon, professeur, bonjour. Votre problème sera toujours un blocage togolais. Parce que moi, je suis très souvent gêné quand à chaque fois les journalistes posent des questions. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez encore faire quelque chose à partir du moment où la constitution est déjà, le train est déjà parti? Alors que, à tout moment, ça peut arriver. Un train qui n'est pas encore arrivé à la gare, tout peut arriver. Vous ne savez pas le doucement que les dirigeants eux-mêmes font. Parce que ce qui se passe, on sait que beaucoup n'ont pas encore digéré cette affaire de constitution. Donc, c'est là le problème, le blocage. Sinon, quand on parle de stratégie, vous étiez ensemble, ce n'est pas là le problème. Malheureusement, nous n'arrivons pas à cerner les choses et à réfléchir là-dessus. C'est un peu l'analyse que moi je voulais faire.
D'accord. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. 90-86-35-35. Allô?
Oui. Bonjour le plateau, bonjour Grand Frère Pascal.
Bonjour Benoît, et vous nous appelez Dagoué.
Oui.
D'accord, allez-y.
Moi, je voulais demander à notre frère, et à votre invité, monsieur le professeur, quelles sont leurs plantes pour réduire la vie chère? Si aujourd'hui, oui, le chef de l'État, il a dit que on les appelait pour parler avant hier des rencontres, même en 2018 ou en 2017, avec les présidents Alassane Ouattara et Ado Alpha Condé. Ça n'a rien tombé. Vous avez traité de sanguinaire. Maintenant, il ne va plus vous appeler. Comment vous traitez le président? Vous avez pris 10 mois pour venir nous dire que la cinquième constitution, il y a ceci, cela. Si on vous donne aujourd'hui le pouvoir, vous avez le ressort pour diriger ce pays. Merci et bonne journée.
D'accord, merci Benoît pour votre intervention. Je sais que la question fait sourire, professeur Dosset. On va revenir en plateau pour répondre à ces questions. On commence, professeur, on commence par la question de Benoît. et d'abord, il veut savoir quel est votre plan pour réduire la vie chère.
Et si jamais nous avions le pouvoir, comment est-ce que nous ferions, c'est
tout
ça?
Tout à fait, tout à fait.
Alors, monsieur Benoît, je vais juste dire une chose en lien avec les ressources du pays. Je crois que lorsque vous avez à gérer des ressources, vous devez utiliser les ressources à bon escient pour répondre à vos besoins. Alors, lorsqu'on reporte cela à l'échelle de notre pays, le Togo dispose de ressources. Vous conviendrez avec moi qu'en 2013, le chef de l'État lui-même a reconnu qu'il y avait cette minorité qui était là pour piller les ressources nationales. Donc lorsque les ressources se retrouvent dans les poches d'une minorité, vous conviendrez avec moi que la vie ne peut qu'être chère. Les Togolais auront du mal à remplir le panier de la ménagère. Les Togolais auront du mal à répondre aux besoins de santé et d'éducation, etc. Et en tant que citoyen, on s'attend alors que le chef de l'État qui a fait une telle déclaration prenne les dispositions pour changer la donne. C'était en 2013. Nous sommes 12 années après. Allez sur Internet, voyez les indices mondiaux de la corruption. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit, ce sont des données mondiales. Et là, vous verrez clairement que rien n'a changé au Togo en termes de corruption depuis 20 ans. Je fais juste un parallèle avec le Bénin. Le Bénin a les mêmes réalités que le Togo. Le Bénin est un peu plus grand, avec plus de population. Pourtant, en moins de 2 mandats, Monsieur Talon, Patrice Talon, le chef de l'État béninois, a pu réduire de façon drastique le niveau de corruption au Bénin, donnant plus de ressources, donnant plus de moyens à l'État pour répondre aux besoins de la population. Donc c'est juste un exemple, si jamais le pouvoir changeait de main, pour vous dire qu'on peut faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui au Togo. Merci, monsieur.
D'accord. Oui, professeur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de d'auditeurs hein, qui nous ont écrit et qui ont posé des questions. Il y a Prénam qui nous écoute et qui dit bonjour, monsieur Pascal, et à tout le plateau. S'il vous plaît, ma question au professeur, quelle solution ils ont trouvé au fameux ministère de l'administration territoriale qui annule souvent les meetings à la dernière minute sans raison palpable chaque fois?
C'est une bonne question. Je sais que c'est une question qui a été débattue, mais je ne vais pas répondre de façon claire. Je ne sais pas ce que les membres du comité d'organisation décident par rapport à cela, mais effectivement, c'est une réalité. Celui qui enfreint les lois, malheureusement, c'est l'autorité publique. C'est l'autorité publique qui décide d'interdire une manifestation publique alors que leur propre loi est suffisamment claire là-dessus. S'il doit y avoir une interdiction, cette interdiction doit survenir au moins 3 jours avant l'événement. Ça vous laisse ainsi la possibilité de retourner, d'expliquer si jamais il y a des incompréhensions. Mais lorsqu'on vous envoie l'interdiction la veille, vous comprenez effectivement que vous n'avez pas la possibilité de vous retourner. Et effectivement, cela est totalement illégal, mais c'est une pratique qui a cours dans notre pays et c'est souvent l'administration publique qui est illégale dans sa décision d'interdiction.
Il y a Maglibé aussi qui nous écoute depuis la Belgique. Maglibé qui écrit manifestation du 23 mars 2025. Le professeur David a tout dit, cette 5e République est une énième bêtise du RPT uni et il est encore temps de faire marche arrière. J'implore vivement le peuple togolais à sortir massivement. J'aime beaucoup ce monsieur et tous les journalistes sur le plateau. Le peuple doit prendre alors son destin à main. Et pour finir, une petite question au professeur. Qu'en est-il du NCC, nouveau contrat citoyen?
Très bien, très bonne question. Le NCC suit son cours. Je n'ai pas assisté à la dernière réunion qui s'est tenue le mardi parce que malheureusement j'avais une journée trop chargée. Mais sachez que je crois que je pense qu'il y avait 8 thématiques qui étaient prises en compte. Beaucoup des thématiques sont aux 3/4 finies. Donc c'est pour dire que les choses évoluent, les réunions continuent de se faire et j'espère que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, quelque chose de tangible pourra être présenté à la nation togolaise comme premier draft issu des différentes réflexions des uns et des autres.
D'accord. Et il y a Cyril aussi qui nous écoute depuis le Canada. Cyril qui écrit « Bonjour Pascal, bonjour le plateau. À mon avis, c'est illusoire de croire que le régime en place va faire marche arrière ou machine arrière sur cette affaire de nouvelle constitution. L'installation est trop avancée pour cela. Il faut que le cadre de travail reconnaisse qu'ils s'y ont pris trop tard. Mais je respecte la dénonciation qu'ils font. Merci et bonne journée. » Oui, qu'est-ce que vous répondez à Cyril?
Je réponds qu'en fait, la solution appartient au peuple togolais. La solution et la réponse sont entre les mains du peuple togolais. Le peuple togolais peut décider d'arrêter cette... On a parlé du train. Moi, qui suis-je pour arrêter un train? Je n'ai aucune force. Vous prenez toutes les organisations qui ont signé la charte. Toutes ces 4 organisations n'ont aucune force pour arrêter un train. Mais en une fraction de seconde, si le peuple décide d'arrêter ce train, qu'il soit arrivé à la gare, qu'il soit reparti, qu'il soit en chemin vers une deuxième gare ou pas, si le peuple togolais décide, par exemple ce dimanche 23, de dire « Essounenea, qui que vous soyez, vous serez obligé de répondre à cette injonction du peuple. Vous allez arrêter, et il faut arrêter cette bêtise qu'on est en train de vivre. » Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de répondre à M. Abalo. qui avait, je crois, le premier, qui avait semblé dire il faut accepter, et puis bon, voilà, nous on a faim, il faut régler les... Vous savez, à Balo, nous sommes en train de construire une nation. Je voudrais que nous voyions plus loin que notre nombril. Aujourd'hui, nous avons des enfants, nous espérons avoir de petits-enfants qui vont continuer à travailler pour ce peuple, pour ce pays. Alors, construire un pays, c'est construire un pays sur des choses solides, des bases saines, de la valeur, voilà. Et si vous décidez de construire un pays sur ce qu'on appelle des contre-valeurs, je ne sais pas ce que vous léguez à vos enfants comme héritage. Et aujourd'hui, nous avons une contre-valeur qu'on nous impose, c'est cette nouvelle constitution. Je ne veux pas revenir sur tout le processus vicié, totalement illégal, qui a conduit à sa promulgation. On peut dire, oui, bon, ça va, le train va arriver à la gare, bon, c'est pas grave. Si, c'est grave, c'est extrêmement grave, monsieur Abalo. J'espère qu'en tant que père, vous léguez à vos enfants de vraies valeurs. Vous dites à vos enfants que voler, ce n'est pas bon. Tricher, ce n'est pas bon. Et c'est ça que nous voulons imposer aujourd'hui au peuple togolais, à la nation togolaise. D'accord. Nous voulons construire une vraie nation bâtie sur des valeurs, j'insiste là-dessus. D'accord. Je n'aurai pas le temps de développer plus.
Tout à fait. On aura d'autres occasions.
Merci.
Mais merci d'être passé, puisque je considère même d'ailleurs cela comme votre mot de fin. Et merci d'être passé, professeur David Dosset, dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission.
Merci beaucoup.
Merci. Michel, merci d'être passé aussi dans cette émission.
C'est avec plaisir.
Ambroise Kwanzo, merci d'être passé dans cette émission.
Merci à toi.
Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui aussi avez contribué à cette émission à travers vos diverses réflexions. Merci merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en ligne. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Et nous profitons de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à notre consoeur et collègue Sylvie Ouedraogo qui célèbre son anniversaire bien sûr aujourd'hui. Et joyeux anniversaire à toi et Sylvie Ouedraogo. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.